Émile Bergerat, le premier mot. L'enfant venait d'atteindre ses 7 mois. C'était une bête humaine magnifique. À sa naissance, il pesait les 9 livres, ce dont son père, oh le diable m'emporte si je sais pourquoi, était fier comme Artaban lui-même. Et comme le parrain répondait au prénom discrédité de Benoît, le phénomène avait été déclaré à la mairie et sur les fonds, sous celui d'Hilaire, pris tout bonnement au calendrier, à la date de sa bienvenue au jour qui nous éclaire. Le saint, en effet, qui préside aux joies et aux peines du 20 mai, signe Hilaire au registre de la Providence. Ce fut, je crois, quelque évêque d'Arles qui n'eut rien de gai que son nom. Le ménage était l'honneur de nos 12 Batignolles. Au lieu où s'arrondit le 17e siècle, il constituait l'un de ces couples exemplaires et sans gloire où la salante démocratique salue son idéal de bonheur plat, à deux neutres à l'envi, le citoyen Paul Legris et Marie Barbier, son épouse, ne se signalaient au physique et au moral par aucun de ces dons d'exception dont la nature s'obstine, en dépit du cordeau des lois, à marquer ces martyrs d'élite afin que la société les reconnaisse. Elle, ni jolie ni laide, d'un blond dédoré, assez bien faite, si le mannequin de bourg des essayeuses est un modèle de forme féminine, les yeux de cet azur dormant que les peintres appellent le bleu bête, elle avait la bouche d'un bel arc et vraiment cupidonienne. Cette bouche, son attrait, et dont le carmin était lustré par la rosée du souffle, n'était pas plus faite pour rester close au baiser, évidemment, que l'oreille et l'œillet d'Inde ne l'est pour se soustraire au dard de l'abeille. Les connaisseurs ne s'y méprisaient guère, et même Madame Legris était en conséquence fort suivie dans ses courses et balades. Oh, de lui, je ne vous dirai rien. N'ayant, j'ai beau chercher, rien à vous en dire. On ne sait pas pourquoi le Père éternel décroche du néant certains hommes qui s'y trouvaient comme chez eux pour les envoyer sur la boule tournante. Peut-être est-ce par pitié pour le suffrage universel dont il faut bien alimenter les urnes dévorantes. À moins que dans sa bonté infinie, il ne veuille pourvoir au recrutement du fonctionnarisme, comme lui-même éternel, et que dans ce but, il ne moule et remoule sans fin entre les miséricordieuses nuées le type administratif du parfait employé. De cette espèce de roseau pensant, Blaise Pascal eut béni en Paul Legris ce que j'appellerais le bambou de la bamboula française, pour en spécifier l'espèce abondante aux Batignolles. Et Paul Legris, le matin, allait à son bureau, puis il en revenait le soir, avec ou sans parapluie, selon les oracles météorologiques. Ponctuel, machinal, impersonnel, insipidement. Une partie de domino à l'estaminet le traînait jusqu'à l'heure du dîner, qu'il rentrait prendre avec sa femme. À l'heure 5e, et la pipe fumée, il se mettait au lit et, s'endormant, ayant vécu. L'État émolue ce service de 1800 livres par an. Il emploie à ce prix 100 000 diplômes des lettres des sciences et 300 000 autres attendent de pâle de faim à sa porte le tour de se vendre âme et corps à l'abrutissement salarié. Oh, dans les pampas, les savanes, courir le buffle riflot d'eau. Bah, me laissons. Durant ce temps, les frelons d'amour bourdonnaient autour de l'oreille du 17e. Un jour enfin, l'enfant s'annonça. Puis il vint, un 20 mai, fête de Saint-Hilaire, évêque d'Arles en Provence. 9 livres de chair à canon que le baptême fit chrétienne. Et voici qu'un rayon de la grande joie naturelle illumina le pauvre front de lys pater responsable, marqué pour l'être et béni du ciel dans ses œuvres. Il allait léger, allègre, exhaussé par sa paternité, à son bureau, à son café, dans les rues, partout, clamant l'hosanna du poupon colossal, faisant à lui seul tout le bruit de l'étable autour de cette nativité. Les Batignolais sont de fort bonnes gens, acquis à l'optimiste, et incapables de s'arracher entre eux, du nez, les lunettes roses de l'illusion conjugale. Pour ces sages du vieux jeu, l'enfant qui vient, d'où qu'il vienne, est toujours le bienvenu, et son père est félicitable. Paul le Gris passait entre deux haies de poignées de main. La chance proverbiale et signalétique lui échut, d'abord sous forme de gratification, puis au jour de l'an d'avancement. Il fut même un petit héritage. Hilaire, superbement allaité, tournait au produit de concours. Il était l'enfant gras, ce rêve des commères. Elle le visitait, ébahi de ce petit Hercule potelé, et s'en allait, pensive, sans avoir pu le dérider, d'ailleurs, car il était grave comme un juge. Il regardait de ses yeux ronds, fixés, intravisionnaires, pareil à ceux des monstres de foire, rebelles aux caresses, inflexibles aux risettes, inquiétants de mutisme. « Cette pauvre madame le Gris, se disait-elle, mais son bioche est privée de la parole. Ah, voilà ce que c'est, ajoutait-elle, en battant d'un clin d'œil ce trait d'insidieuse malice. Et de fait, on ne connaissait pas le son de voix du prodige. Sourd, nullement, et bien au contraire, puisqu'au moindre bruit il tendait l'oreille, et même avec une avidité d'ouïe singulière. Ainsi ne s'endormait-il qu'au prix d'une chanson maternelle, et la cacophonie des pianos circonvoisins déchaînés le tenait-elle en pur état d'extase. C'était jusqu'à ce point que, dans ces soliloques au long des rues, Lys Pater se demandait s'il n'avait pas, lui, modeste rond de cuir, donné un autre Mozart à la France. Quant au verbe, point, et la petite bouche en restait vide, quoique épanouie comme celle de sa mère et déjà enchâssée de quenottes. Mais d'où provenait cette anomalie, si, comme la faculté le professe, le mutisme n'est que la conséquence de la surdité? De leurs soucis grandissants, les parents se décidèrent à consulter l'un des docteurs de cette faculté. Il inspecta l'enfant, contrôla le jeu de ses organes, et n'y découvrant rien que de rationnel, conclut à quelque retard de l'intellect, expliqué d'ailleurs scientifiquement par la prépondérance hyperphysique de la matière. S'il ne parle pas, déclara-t-il, il parlera, qui sait, comme Demosthène peut-être, en attendant, exercez-le et tirez un peu au dehors l'âme tapie derrière cette masse adipeuse et qui paraît si garée de la pensée. « C'est bien, » fit résolument l'employé. « Il ne sera pas dit que j'ai mis au monde une brute. Dans 8 jours, il dira « Papa » ou « J'y perdrai mon nom de Paul le Gris. » Et il se mit sans répit à la besogne. Ce fut en vain, il dut le reconnaître et s'en désespérer. Hilaire récalcitrait à toute imitation de son formulé. Même ce vocable initial, en toutes langues humaines, premier exercice de la phonation, diphtongue quasi animal encore et plutôt cri que mot, papa, ne frappait les méninges du jeune anthropoïde, ou du moins ne s'y répercutait. Il demeurait, lèvres closes, le regard creux, semblable à ces babouins emperruqués nommés Amadrias, qui doivent être les magistrats du peuple des singes, tant leur maintien est sévère. « Bon, jamais il parlera, » déclara Paul le Gris à sa femme. « Ben, j'y renonce. Mais qu'est-ce que c'est que ce bipède-là? Là, tu fais avec une statue. »« Eh bien, il dira donc maman, » jura la mère, « et je m'en charge. »« Les phoques le prononcent, » raisonnait-elle, « Ils sont que des phoques. Ils déploient jusqu'à des poupées de caoutchouc, de bois, dont la mécanique n'obtienne l'émission réitérée de la double syllabe. À plus forte raison, l'amour maternel. Bon, qu'ils se refusent au papa de soi, mais aux mamans impossible, fut-il l'enfant du diable. La lutte fut longue et acharnée, car Marie Barbier souffrait dans son orgueil de mère du babil à sous-entendu des commères. Elle eut beau user de tous les moyens, même de ceux dont dispose la nourrice, lui refuser le sein, la pincer ou le caresser, lui donner et lui retirer un jouet, lui prodiguer violence ou tendresse, elle ne décela point la mâchoire mystérieuse. Quoi, pas plus maman que papa? Elle en pleurait de rage et de honte. Une nuit pourtant, elle crut ouïr quelque chose. Elle sauta du lit et, pieds nus, vint au berceau. Il était à demi dressé et il proférait une onomatopée, hélas, toute digestive, mou. Ce balbutiement et ructatoire n'était encore que le principe imitatif du langage, mais il ouvrait les champs verts de l'espérance. Elle réveilla son mari. Il est radibou, viens vite! Mais l'ispater avait perdu la foi au futur Démosthène. Oh, le bon balai, grommela-t-il, c'est un idiot! Et il se retourna, le front dans la ruelle. Le temps courut et ramena l'anniversaire du mariage, qu'on commémore encore dans les naïves batignolles. Un petit Balthazar annuel assembla autour de la bourriche d'huîtres et de la fiasque de champagne les amis et les commères, convives ordinaires et réciproques de la fête de famille. Élargie de ses deux rallonges, la table, décorée de toutes les fleurs de la saison, semblait une corbeille de square, et comme il sied chez les petites gens, en pareille occurrence, le traiteur fut chargé de la direction d'une bataille gastronomique que je n'ai pas à vous décrire. Elle se termina dans cette exaltation des toasts qui mêle à toutes nos joies intimes l'apothéose de la République. Et l'on allait la consacrer par des modulations sur le thème de la Marseillaise, lorsque les dames eurent l'idée d'y associer Hilaire, que le bruit des coupes entrechoquées avait d'ailleurs réveillé dans sa Barcelonnette. Elles l'apportèrent en chemise, et dans sa nudité chérubine d'ange fessu, elles le disposèrent au milieu des fleurs. Il ouvrait sur elle son regard intérieur, où l'âme obscure se heurtait comme une chauve-souris à une vitre. Tout à coup, il desserra les lèvres, sembla voir son père pour la première fois, lui sourit, et d'une voix de cuivre, il fit « Cocu !» Hilaire Legris est aujourd'hui anarchiste.